justement la mise en scène, j'ai pensé au tout premier message que j'ai fait dans ma vie. C'était il y a 70 ans. À l'époque, on montait en chaire. C'est-à-dire qu'il y avait dans l'église évangélique une chaire, et on prenait un petit escalier, je ne sais plus trop bien, une dizaine, une quinzaine de marches, et puis on avait la vue plongeante sur l'assemblée. Voilà. Alors peut-être que ça veut dire qu'on arrive à la fin et que maintenant, c'est peut-être la dernière fois que j'interviens. Ah bon ? Je souhaite qu'on affiche le psaume 103 et je demande à Pierre de bien vouloir le lire. Merci Pierre. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce psaume 103, je le trouve extraordinaire, extraordinaire. C'est un hymne de louange de David que je fais mien aujourd'hui plus que jamais. C'est lui, verset 5, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le mois de février m'a vu naître en 1935, c'est-à-dire il y a 91 ans. Et donc cette semaine, je vais, si mon père le permet, je vais entamer la 92e année. Oui, mon âme bénit l'Éternel. Que tout en moi bénisse son saint nom. Je suis né dans une famille évangélique, fréquentant une communauté évangélique, issue directement de la Réforme. Donc c'est une église évangélique qui a plus de 200 ans. Alors ma jeunesse s'est déroulée dans ce cadre un peu particulier d'une église évangélique très ancienne et où il y avait quand même une séparation entre catholiques et protestants, ceux qui sont nés dans des régions justement où la réforme a œuvré profondément, savent qu'aujourd'hui encore, il y a quelques tensions entre les communautés évangéliques et les communautés catholiques. Alors, il y avait donc un contexte qui faisait que notre vie était réglée par le temple, ce qu'on disait, on appelait ça le temple, et il y avait, c'était un peu déjà être dans le monde, mais pas du monde. Il y avait le cadre, donc ce cadre de l'Église, nous avions notre rythme de vie séparé du monde avec activité centrale le dimanche, le culte et l'école du dimanche pour les enfants de moins de 14 ans. Cette école du dimanche pour les enfants, c'était le dimanche, c'était le Nouveau Testament qui était étudié. Puis il y avait bien sûr en semaine ce qu'on appelait l'école du jeudi, qui était plutôt orientée vers l'Ancien Testament. Dans cette église, il y avait un groupe de jeunes assez important, 30 à 40 jeunes. Et il est sorti de ce groupe de jeunes dans ma génération, 6 ou 7 pasteurs, je n'ai pas fait le compte exact, qui ont servi d'ailleurs par la suite dans diverses unions d'églises, y compris baptistes. Alors, c'est à la fin de ma 13e année que Dieu m'a interpellé. Je ne sais pas si je ne peux pas dire que je me suis converti, mais c'était tout comme. Ce n'est pas moi qui me suis converti, de toute façon, c'est le Seigneur qui m'a converti puissamment. Et ça a orienté toute ma vie entière. Et il m'a, à 13 ans, donc, c'est là que je suis né dans une famille de fermiers. Je suis né dans une ferme au milieu des poules, des cochons, tout ce que vous voulez, comme les chevaux, les porcs, oui, bien sûr, les lapins, enfin bref, tout ce que vous voulez. Comme un animal. Et il n'était pas habituel qu'on aille au collège après. On se tâchait de trouver une orientation professionnelle. Alors, donc, je suis entré dans ce collège à 14 ans et demi, collège de Châteaudun, en Eure-et-Loire, après avoir passé mon certificat d'études, et je suis entré directement en cinquième. Je n'ai pas fait de sixième. Le certificat d'études a servi de passeport. Donc j'ai fait pendant 3 ans le trajet Gobert-Châteaudun. Le week-end, je retenais donc dans le groupe de jeunes que je n'ai pas quitté pendant toutes ces années. Puis après, donc, je suis allé à Chartres, au lycée Marceau de Chartres, jusqu'au bac. Et puis, ce fut le service militaire, notamment en Algérie, dans la région de Tizi Ouzou, en zone militaire opérationnelle. Là aussi, je fus protégé. Étonnamment protégé, bien que sortant en opération souvent. Et j'avais un chef de section qui, quand il voyait que je m'écartais, il me faisait rentrer dans le rang en me disant « tu n'es pas payé pour ça ». Après donc trois Noëls à l'armée, je suis revenu donc au lycée Marceau à Chartres, un poste de surveillant pour financer mes études de droit et par la même occasion épouser la secrétaire de l'intendance avec qui je faisais mes études de droit. Nous aurons par ailleurs donc trois garçons, 9 petits-enfants et à ce jour 11 arrière-petits-enfants. Après 63 ans de mariage, mon épouse est décédée il y a 3 ans. Ma vie professionnelle, rapidement, elle s'est arrêtée, bien sûr, avec le départ à la retraite en janvier 1996, 1er janvier 1996, il y a donc 30 ans, 30 ans que je suis en retraite, merci Seigneur. Dans cette vie professionnelle, j'ai tout fait pour ne pas travailler le dimanche. C'était réservé à Dieu. Le dimanche était sacré. J'avais appris ça dans mon église. Et cela m'a permis en particulier de participer à la création, la mise en place de l'église évangélique libre de Paris, appelée aujourd'hui Église d'Alésia, dans les locaux à l'époque se commençait dans les locaux du GBU, rue Serpente, au plein cœur du quartier latin, avec l'équipe donc du pasteur Samuel Benetro. Une merveilleuse aventure à partir de rien, pour la gloire de notre Père. Puis, donc, j'ai demandé ma mutation à Lyon, et là j'étais adjoint au directeur de la banque CHCI, c'est-à-dire la banque qui avait comme mission de l'État de remettre en place les stations de sport d'hiver et l'hôtellerie française. Voilà, c'est bon. Alors, le problème qui s'est posé pour moi, ça a été un problème de santé physique. Pendant toute ma vie professionnelle et d'étudiant, tout allait bien, jamais rien. Mais après, j'ai cumulé. Un an d'ailleurs, ça avait commencé un an avant la retraite où le diabète s'est déclaré avec passage rapide à l'insuline. Aujourd'hui, donc, à titre de formation, j'ai 4 injections d'insuline par jour. Puis, il a fallu m'installer un défibrillateur ici, parce que le cœur faisait des siennes. Puis, ce fut la jambe gauche, celle-ci, qui était atteinte de neuropathie diabétique, avec une attelle pour la tenir. Puis après, j'en passe, j'allais dire, et des meilleurs, il y a eu l'appendicite en 2011. Il y a eu des coliques néphrétiques, il y a eu une cruralgie, la maladie de putrin à la main. Alors aujourd'hui, l'œil gauche, celui-ci, qui est le seul valide et qui aussi a manifesté deux pannes. Une, il y a 3 ou 4 ans, qui a été guéri suite à la prière, et puis qui est maintenant la deuxième, qui est soignée par des infiltrations dans l'œil. J'en suis à ma 7e ou 8e, et l'œil a trouvé retrouvé à peu près sa vision, et ce qui permet encore de conduire ma voiture. Et j'ai passé le mois dernier, pour tous les 6 mois, 1 an, je dois repasser devant la médecine de la préfecture pour valider mon permis de conduire. Et l'attestation qui m'a été donnée, encore capable de conduire. J'aime bien aimer le « encore ». Bon, je voudrais plutôt maintenant passer plutôt à l'aspect spirituel de ma vie. Il semblerait que tout allait bien avant et qu'après tout allait mal, tout allait de travers. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose à revoir de plus près. Nous avons souvent, je pense que on ne souligne pas assez que la vie chrétienne est une évolution, est une transformation profonde. On reçoit un enseignement, mais la mise en application de cet enseignement semble pas très performant. Je vais peut-être écourter un petit peu. On nous parle, donc on peut peut-être lire un verset ou deux. 1 Corinthiens 3, verset 1 Corinthiens 3, verset 2. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pourriez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. C'est celui qui, verset 8, c'est celui qui plante, et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Et donc, notre choix est sollicité, faire du bon travail dans notre vie. Il y aurait d'autres versets à lire. Alors, et il y a ce verset que je me suis un petit peu paumé là. Donc tous ces avertissements qui nous sont donnés, chacun se recevra selon sa participation à son travail dans sa vie. mettez en œuvre votre salut avec Philippiens 2, versets 12 et 15. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. J'ai mis du temps à comprendre ce qu'était vraiment la grâce de Dieu, de cette grâce où Dieu est là surtout, non pas pour absorber toutes nos erreurs, mais pour pourvoir au remplacement de ce qui a été gâché. J'avais bien enregistré que dans l'ancienne alliance, c'était la loi qui prévalait, 613 articles à respecter, en fait impossible à vivre. Et la nouvelle alliance, c'était le temps parce que Dieu, dans son immense amour, est là pour pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Mais dans tout cela, un verset m'interpellait concernant justement, on l'a chanté, que Dieu ne voulait pas que nous restions orphelins. Il voulait être là pour nous aider à vivre notre vie chrétienne. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ce verset est terrible, parce qu'on a du mal à le croire que sans notre Père, on ne peut rien faire. Et Jésus dira donc, dans Jean 7, verset 7, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Avantageux que je m'en aille. Bien sûr, ce Consolateur promis est prévu donc chez chaque personne qui reconnaît son péché, et il est là tous les jours présent, quel que soit l'endroit où nous sommes sur la face de la terre. Alors, quel est ce Consolateur, lequel, de Corinthiens 1, verset 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Romains 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit, et selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Autre verset, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Les arts, qu'est-ce que c'est que des arts? C'est un aperçu, un acompte, une promesse qui, dans le cas présent, doit accompagner jusque dans la vie éternelle. C'est pour cela que déjà la vie éternelle a commencé sur cette terre, parce que nous avons le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit donc est donné à la nouvelle naissance, mais doit être déployé après. Il convient de demeurer dans la vie par l'Esprit. Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, ne savez-vous pas ? Donc la première chose, c'est de savoir, d'apprendre et de lire la parole. Mais la deuxième chose, c'est de comprendre qu'on ne s'appartient plus, que nous avons à recevoir de Dieu chaque jour la force, l'enseignement, la force et la direction à suivre. Ne savez-vous pas ? Bien sûr, on peut dire ça hautement, on peut parler que nous avons à lâcher prise, que nous avons à renoncer à soi-même, que nous avons à porter chaque jour notre croix, ce joug, le joug de Jésus, qui est dans Matthieu 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Avec donc la nouvelle naissance, je deviens une nouvelle créature avec une nouvelle intelligence, une nouvelle approche, une nouvelle compréhension de ce que je suis, de ce qui m'entoure. Et mon corps même change en fait de propriétaire. Je ne suis plus propriétaire chez moi. Il faut donc le savoir, en tenir compte, passer je suis navré, j'ai des problèmes de alors et un autre verset m'informe que le moins que je puisse faire, c'est d'être soyez rempli du Saint-Esprit. Je vais terminer. En conséquence, mon père sait ce que c'est une nécessité. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai vers vous. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Et à la fin du verset, car sans moi, vous ne pouvez rien faire, je l'ai déjà donné. Soyez au contraire donc remplis du Saint-Esprit. Soyez, c'est presque un commandement, montrant que dans le cas présent, on a une responsabilité dans le fait d'être rempli du Saint-Esprit. On a un rôle à jouer. Non, notre Père, donc, c'est ce qu'est la vie chrétienne pour nous et que nous ne pouvons pas la vivre avec nos propres forces, avec notre volonté, notre discipline personnelle. Et il y a ce verset magnifique dans Jean 7, 37-39, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore là parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si quelqu'un a soif, donc pour une des premières motivations pour participer à cette injonction, soyez remplis de l'esprit, c'est d'abord d'avoir soif et d'être d'accord avec le Seigneur et de jouer le jeu, avoir soif. La deuxième condition qui nous est donnée par ce verset, peut-être le verset 5, acte 5, verset 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Être toujours prêt à obéir à Dieu, à être de tout cœur avec Dieu et sa parole. C'est plus, beaucoup plus, il ne s'agit plus de connaître seulement la volonté de Dieu, mais de la mettre en pratique et d'obéir. L'obéissance à Dieu n'est pas négociable. On ne peut pas servir de maître, nous le savons, hein, nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Ou encore, il y a dans les rois avec le roi Saül, à qui avait reçu l'ordre, en envahissant les Amalécites, de tout détruire sur son passage. En fait, il s'en est mis de côté et Samuel lui dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Saül perdit à l'époque, à ce moment-là, sa royauté. Troisième condition pour recevoir le Saint-Esprit, donc avoir soif, obéir. Et la troisième condition, c'est de vivre en intimité par la prière, notamment par la méditation avec Dieu, pour pouvoir entendre la voix du Saint-Esprit. Alors, pour conclure, je suis navré, je ne suis pas... Enfin, bref. Pour conclure, si vous voulez un petit peu apprécier où vous en êtes, où j'en suis, il y a deux points de repère. Il y a d'une part où en est le fruit de l'esprit dans ma vie. Ça, je peux savoir où j'en suis, du fruit de l'esprit. Où en ai-je de mon amour pour tout un chacun? Où en est ma joie, ma paix, ma patience, ma bonté, ma bienveillance, ma foi, ma douceur, et puis aussi la maîtrise de soi? Et deuxième verset, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, actuellement, c'est sur ce terrain-là que je suis personnellement dans ma vie spirituelle, pour chercher à être rempli du Saint-Esprit pour la gloire du Père. Merci.